Hello, bienvenue sur ton bac de français en poche. Moi c'est Anaïs, professeur particulier. J'accompagne les lycéens qui passent des examens, des concours et je suis aussi coach de vie. J'accompagne toutes les personnes, ados, adultes, parents, familles, etc. Toutes les personnes qui ont un objectif à atteindre ou bien un problème à résoudre d'ordre relationnel par exemple. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler du 19e siècle. Alors c'est un siècle très très riche au niveau littéraire, mais pour bien comprendre les impacts, enfin pour bien comprendre ce qui se passe en littérature plutôt, il faut revenir sur les éléments du contexte socio-historique, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre les textes en fait. Alors premièrement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le 19e va être un petit peu la caisse de résonance de la Révolution française. Donc 1789, on a une première révolution, et en fait le 19e va continuer comment dire, de vibrer en fait au son de cette révolution. On va avoir quand même un sacré bazar au niveau politique. Alors le 19e s'ouvre avec l'empire de Napoléon, hein, Napoléon Bonaparte, le grand Napoléon, comme dira Victor Hugo. Donc prestige militaire, une politique plutôt forte, et surtout un gros bouleversement au niveau du cadre européen. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cet empire, il va être à la fois très prometteur, mais la chute de l'empire va aussi être assez violent. Enfin, les défenseurs de Napoléon Bonaparte vont très mal le vivre, hein, la chute de l'empire. Donc on a déjà cet empire, puis ensuite on va avoir quand même comment dire, une palette de régimes politiques qui vont se succéder. Donc on va avoir notamment la restauration de la monarchie, puis après des révolutions, des républiques. Bon, ça va être assez mouvementé. On retrouve cette instabilité, on va vraiment la retrouver dans un des mouvements les plus importants de la période, qui est le romantisme. Hein, le romantisme commence vraiment au début du 19e, même s'il y avait déjà des précurseurs fin 18e, j'ai dû en parler il me semble dans l'épisode précédent. On avait déjà Rousseau, Chateaubriand qui lançaient déjà un petit peu comment dire, des jalons, qui posaient déjà des jalons en fait. Mais le romantisme commence vraiment au 19e, jusqu'à peu près, on peut aller jusqu'à peu près 1850, dans ces années-là. Qu'est-ce qui caractérise le romantisme? Bah d'abord, c'est une grosse inquiétude métaphysique, partagée par toute cette génération, hein, avec, comme dira Musset plus tard, l'impression d'être né trop tard dans un monde trop vieux. Donc il y a vraiment une espèce de mal-être. Qui colore en fait ses écrits romantiques. Le romantisme va aussi permettre l'explosion en fait du lyrisme. On a vraiment la mise à nu d'un moi donc qui est plutôt souffrant, comme on vient de le voir, d'un moi qui est plutôt triste, plutôt inquiet. Mais aussi, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les rêves de ce moi. Et c'est plutôt un moi, alors certes, il y a d'un côté une grande souffrance, mais de l'autre, il y a une aspiration vers un idéal, une aspiration à devenir un héros, à transformer le monde. Donc les personnages romantiques vont vraiment porter cette énergie, hein, on va vraiment retrouver cette énergie, et finalement, ils vont dépasser la simple singularité en fait. Ils vont toujours représenter des valeurs universelles. Donc ça, faut bien le garder en tête. Même quand on va être dans le lyrisme le plus profond, hein, quand le jeu poétique va s'exprimer, il n'exprimera pas que les tourments du poète, mais il exprimera vraiment les tourments de toute une génération. Voilà, donc on a ça, on a des thématiques très précises avec le romantisme, notamment la nature qui permet en fait vraiment de retrouver un refuge, le calme, etc. Mais qui est aussi un reflet des états d'âme du personnage ou du poète. On a aussi le thème de l'engagement. Ce sont des écrivains très très engagés au niveau politique, qui défendent la cause sociale. On pourrait avoir d'autres thématiques comme l'exotisme, l'ailleurs, le voyage, le rêve, etc. Bon, voilà, c'était juste pour donner une petite idée. Avec le romantisme, en fait, on renoue un petit peu avec le baroque. Quelque part, on renoue avec cette esthétique très libre et avec ce goût parfois du spectaculaire, des mélanges. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire globalement. Alors, par la suite, le romantisme va aussi ouvrir la voie, finalement, progressivement, à un réalisme. Donc, il y a un autre courant très important de la période, puisque finalement, ce désenchantement que vivent les romantiques, hein, cette espèce de dépression qu'ils sont en train de vivre, elle va toucher une bonne partie des auteurs, et certains vont tenter plutôt d'échapper à l'idéalisme romantique et vont tenter en fait tout simplement de représenter le réel de manière objective. Vraiment l'idée ça va être de décrire la réalité une fois qu'on l'a observée, qu'on s'est documenté, etc. Et l'idée ça va être simplement de faire entrer le réel dans la littérature et le réel sous toutes ses coutures. Bref, et là ça va donner lieu parfois à des personnages qui échouent, qui sont confrontés à un réel trop difficile et qui échouent, ou alors qui tentent le tout pour le tout, des personnages vraiment très... des arrivistes en fait, hein, des opportunistes qui vont essayer coûte que coûte de s'élever dans la société. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le réalisme n'est pas juste une description plate de la réalité. Déjà parce que c'est juste impossible de décrire le réel, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses. C'est toujours en fait une reconstruction en fait de la réalité. Donc on ne donne que simplement une, on dirait plutôt une illusion du réel. Il faut bien faire attention à ça. Bon, globalement, le réalisme va faire une bonne partie du 19e. Hein. Il va courir sur une bonne partie du 19e. Seulement, on va avoir au niveau historique d'autres événements qui vont venir nourrir en fait la littérature. Alors, on va avoir le Second Empire. Alors, le Second Empire, ça commence en 1852 réellement, et c'est finalement l'ascension de Napoléon III. Alors attention, rien à voir avec Napoléon Ier, hein, ne pas confondre Napoléon Bonaparte et Napoléon III. Bref, ça va être un empire beaucoup moins prestigieux, et qui va être très très décrié par les auteurs, notamment par Victor Hugo. Donc là on va avoir une écriture très engagée. Avec ce nouvel empire, on va rencontrer en poésie de nouvelles choses. On va avoir notamment L'art pour l'art. L'art pour l'art, c'est 1852. C'est vraiment Théophile Gautier qui est au cœur de ce mouvement, qui va en fait finalement... un petit peu s'éloigner de l'épanchement romantique, cet épanchement lyrique où vraiment l'auteur se met à nu, et on va plutôt se tourner vers une poésie beaucoup plus formelle, on va se concentrer sur la forme, sur la beauté des vers, etc. Et le poète va un petit peu s'effacer pour laisser place uniquement à la beauté et à la forme. Un peu comme un sculpteur, voilà, le poète est simplement là pour travailler le matériau sonore. Voilà ce qu'on peut dire de cette période. Si on continue au niveau historique, on va entrer dans la Troisième République après la chute du Second Empire, donc 1870. La Troisième République, elle va mettre beaucoup de temps à s'enraciner et elle va être secouée par pas mal de tensions et de crises. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une période marquée par l'industrialisation. Avec une nouvelle classe sociale qui émerge progressivement, hein, la classe ouvrière, et puis avec toutes les théories économiques qui vont avec. Hein, on a aussi la naissance du socialisme et du communisme avec les écrits de Marx et d'Engels, par exemple. Donc, c'est marqué par l'industrialisation, mais cette période, elle est aussi marquée par, finalement, le triomphe de la science notamment sur la religion. C'est ce qu'on va appeler le positivisme, c'est vraiment l'ère positiviste. C'est un moment où le discours scientifique est vraiment glorifié et il est privilégié en fait dans la société. Et ça, ça va carrément marquer la littérature. Alors, notamment avec le courant naturaliste. Le naturalisme, ça va être une espèce de prolongement du réalisme, sauf que cette fois-ci, on va pas simplement observer la réalité, on va aussi, et c'est notamment Zola qui fait ça, on va aussi essayer de rendre finalement la littérature scientifique. On va faire des expériences dans le roman pour prouver en fait des théories scientifiques comme la théorie de l'hérédité, la théorie du milieu, etc. Donc là, on a finalement... le réalisme va beaucoup plus loin. Hein, ça devient un réalisme mais porté par la science en fait. Enfin, ou en tout cas qui a une volonté de trouver une légitimité scientifique en fait, c'est ça. Alors la fin du siècle va être plutôt marquée par un refus en fait du réel. Hein, sur la fin de ce siècle-là, on va plutôt s'éloigner de tous ces discours didactiques, réalistes, etc. Et on va plutôt mettre en avant l'intuition, tout ce qui est invisible, le côté un peu mystérieux. Et on va être vraiment en rupture avec cet aspect positiviste. Donc là, ça va être des courants comme le symbolisme en poésie, hein, qui repose plutôt sur la suggestion. On va simplement suggérer, plutôt que d'être trop clair, en fait, d'avoir des poèmes trop évidents, trop clairs, on va suggérer, essayer de jouer sur le sens des mots. Et on va aussi avoir un autre courant qui est plutôt qu'on retrouve plutôt dans le roman, qui est le décadentisme, et qui est un peu une espèce de rupture avec le réalisme et le naturalisme. Le décadentisme va vraiment s'éloigner de cette recherche d'une réalité objective et asséchante. On va plutôt chercher à tout simplement renouer avec un passé complètement idéalisé. On va renouer avec le mystère. On va renouer avec finalement le côté un peu imaginaire finalement. Donc voilà pour le 19e siècle. Il y a pas mal de courants, mais finalement, le fait de bien comprendre l'agencement des événements en fait, historiques permet d'arriver quand même à comprendre comment évolue la littérature sur cette période-là. Bon, malheureusement, je ne peux pas tout dire, c'est des épisodes que je voulais plutôt courts. Enfin bon, c'est relatif. Mais j'espère en tout cas que j'ai bien pu te transmettre l'essentiel de ce siècle et que ça te sera utile. Si c'est le cas, pense vraiment à me mettre 5 étoiles, ça m'aide énormément. N'hésite pas à me laisser aussi un avis, notamment sur Apple Podcast, je les lis tous, et même en DM Instagram, je réponds à tout le monde et ça me fait vraiment super plaisir. Je te remercie en tout cas pour ton écoute. Et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour parler du XXe siècle. Merci pour ton écoute et à très bientôt sur ton bac de français en poche.